Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
José Mercier est le maire de Beauvel, une petite commune de 600 habitants en Ille-et-Vilaine depuis 1993. Outre le dynamisme qu'il a redonné à la commune, il est surtout l'un des maires bretons le plus actif dans le combat contre l'installation des compteurs électriques connectés, dits les compteurs Linky.
Monsieur Mercier, est-ce que vous pouvez déjà peut-être commencer par nous expliquer pourquoi la commune de Beauvel, et ça ne date pas d'aujourd'hui, s'est opposée à l'installation de ces compteurs et par quels moyens et où vous en êtes aujourd'hui ?
C'est un combat qui commence en fin 2017. Pour quelles raisons ? Souvent, les combats dans lesquels on s'engage le sont pour des raisons aléatoires. Il s'est trouvé que j'ai entendu parler par des proches des compteurs Linky et j'ai commencé à m'informer. Et depuis que je suis élu maire, j'ai toujours eu à cœur de voir comment une petite commune qui faisait 300 habitants à l'époque, qui en fait 600 aujourd'hui, pouvait contribuer dans sa modeste mesure à favoriser les créations d'emplois. À l'époque, on a trouvé des solutions qui consistaient à faire des bâtiments générant du travail de ménage, de cantine, etc. Et on a approché ces réalisations avec l'optique suivante. Si on investit, il y aura des frais de fonctionnement, certes, mais ces frais de fonctionnement vont consister en bonne partie à rémunérer du personnel. Et dans une époque de chômage importante, ça sera notre petite pierre à l'édifice. Et c'est un petit peu ce même souci qui, 25 ans après, m'a d'abord guidé. J'ai découvert que nous avions des appareils en parfait état de marche, les compteurs
électriques classiques,
et qu'on allait les détruire en grand nombre, et qu'on allait détruire également des compteurs à eau, des compteurs à gaz, ce qui fait un total de 80 millions de compteurs, pour les remplacer par des outils soi-disant plus performants, mais avec une conséquence immédiate qui est la mise au chômage d'environ 5000 personnes. Alors ça nous a choqués, et ça nous a d'autant plus choqués que on remplaçait ces anciens compteurs qui avaient une durée de vie de 50 ans parfois par des compteurs qui vont devenir très rapidement obsolètes puisque leur valeur est constituée à hauteur d'environ 70% de matériel électronique qui sera vite périmé et que ces compteurs ont une durée de vie d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années selon Enedis. Et 7 ans, quand on en croit les associations de producteurs, de compteurs. Alors, on s'est dit, voilà, on fabrique des appareils qui vont devenir très vite obsolètes et on le fait au détriment de la politique de l'emploi. Et en plus de cela, on a des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir supporter dans de bonnes conditions des différents champs électromagnétiques. Et on a une directive qui nous oblige en tant que maire à supprimer les Wi-Fi des classes maternelles. Alors ça paraissait pour nous un peu contradictoire. Voilà trois axes de contestation qui m'ont animé pour soumettre à mon conseil municipal une délibération visant à interdire ces compteurs. Lorsqu'on prend une délibération, un conseil municipal est toujours soumis à ce qu'on appelle le contrôle de légalité de la préfecture ou de la sous-préfecture, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle décision, et il faut que nos décisions soient conformes à la loi. Dans cette affaire, la préfecture a réagi par ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire qu'on nous demande de retirer notre délibération au motif qu'elle est entachée d'illégalité. Et on s'est rendu compte que, effectivement, il ne relevait pas du pouvoir du maire d'interdire la pose des compteurs sur la commune, sauf si la commune est propriétaire des compteurs. Alors nous avons refusé de retirer notre délibération, nous sommes allés devant le tribunal administratif. On a été déféré au tribunal administratif à la fois par la préfecture et par la société Enedis. Nous avons perdu, nous avons fait appel. Nous avons à nouveau perdu, c'est-à-dire que la cour d'appel, comme le tribunal administratif, ont considéré que la commune n'était plus propriétaire des compteurs. Pourquoi ? Parce que, il y a quelques années, les communes, presque partout en France, ont transféré la compétence dans la gestion du réseau public d'électricité basse tension à des syndicats mixtes, puis aujourd'hui à des syndicats départementaux d'énergie, les SDE. Et selon l'État, dès lors qu'on a transféré la compétence, ipso facto, la propriété des compteurs se trouve transférée elle aussi. Nous avons donc perdu en appel et nous avons fait un recours devant le Conseil d'État. Pourquoi ? Ben parce que, en définitive, cette question de la propriété juridique des compteurs n'a jamais été tranchée par la jurisprudence. Et le Conseil d'État va rendre sa décision à la fin du mois de juin. Alors il se peut que nous perdions, mais au moins il aura été clair, si nous perdons, que d'une part, les communes ne sont plus propriétaires des compteurs, et d'autre part, que nous nous sommes fait déposséder de cette propriété sans nous en rendre compte, non seulement pour la commune de Beauvel, mais pour toutes les communes de France. C'est-à-dire qu'on a là ce que j'appellerais une entourloupe, habilement ficelée par le croisement de textes de loi relevant du Code de l'énergie et du Code des collectivités territoriales. Ça veut dire que si nous ne sommes plus propriétaires des compteurs, ce sont les syndicats départementaux d'énergie qui sont propriétaires des compteurs. Ce n'est pas Enedis. Et donc, la possibilité de refuser des compteurs reviendrait aux syndicats départementaux d'énergie qui sont composés d'élus. Et là, on se heurte, lorsqu'on est opposé au compteur Linky, à une autre difficulté, qui est que, en France, la plupart des élus ont une approche éthique de leur fonction un peu particulière. C'est-à-dire que, par frilosité, par peur de la marginalité, par peur d'avoir raison tout seul, le cas échéant, les élus préfèrent attendre, préfèrent garder la tête dans le sable, préfèrent que l'on décide pour eux, préfèrent que l'on pense pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont une approche de leur rôle, de leur fonction d'élu, où la morale se réduit à la loi, à la légalité. Alors c'est difficilement compréhensible par les administrés, parce que le maire est souvent le dernier rempart contre certaines décisions étatiques. Eh bien les maires, la plupart du temps, font silence, disent « ça n'est pas de notre compétence », se rangent du côté de l'avis de la préfecture qui toujours représente l'État, c'est son rôle. Voilà pourquoi, en définitive, à la fois par... je dirais quasiment par lâcheté, en tout cas par un sens des responsabilités qui n'est pas du tout celui qui m'anime, et par incompétence aussi, par refus de savoir, les élus qui sont membres des syndicats départementaux d'énergie laissent passer le train du Linky, et ça me scandalise. Alors la question sera tranchée, si elle est en défaveur de la commune de Beauvel, on saura que ce sont les élus des syndicats départementaux d'énergie qui représentent l'ensemble des communes qui sont, au bout du compte, responsables. Alors, il y a aussi les discours des élus qui disent « nous prenons nos responsabilités », mais on sait bien dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'amiante ou qu'il s'agisse de n'importe quel scandale sanitaire, on sait très bien que les gens qui disent prendre leurs responsabilités ne sont plus sur la scène publique lorsque les effets à long terme de leur décision ou de leur absence de décision se font sentir. Et dans le cas des compteurs Linky, et dans le cas plus précisément du volet sanitaire, hein, de l'effet néfaste des champs électromagnétiques cumulés, on sait très bien que les effets sanitaires ne sont pas mesurables aujourd'hui, ils sont mesurables à long terme. Et tous ces responsables bien-pensants, en définitive, auront quitté la scène publique et s'en laveront les mains. Et on est d'autant plus scandalisé, moi je suis d'autant plus scandalisé quand je constate, en creusant un peu la question des courants porteurs en ligne, des ondes émises par les Linky, quand on constate que les normes auxquelles se réfère systématiquement la société Enedis et l'État ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, quand on a des seuils de tolérance qui sont deux fois plus élevés en France qu'en Russie, par exemple, eh bien, on se rend compte qu'en définitive, l'habileté du législateur consiste toujours à poser le niveau de la norme de manière à ce que l'industrie, l'enjeu financier puisse être préservé. Et dire « nous sommes conformes aux normes », ça n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Concernant la question sanitaire, qui est la question la plus délicate, je suis d'autant plus interpellé que je reçois, depuis qu'on est engagé dans ce combat anti-Linky, de multiples courriers avec certificats médicaux à l'appui. Quand on est confronté à ça et qu'on voit que le législateur et nos représentants nationaux s'en contrefichent, et quand on voit que l'ordre des médecins attaque le professeur Belpomme, cancérologue, le professeur Belpomme est menacé par le Conseil de l'ordre parce que lui reconnaît l'électro-hypersensibilité, on se dit vraiment qu'on vit dans un monde où nos décideurs ne nous représentent plus et c'est leur légitimité qui me fait problème. Que signifie être représentant de l'intérêt général dès lors que ce sont toujours des intérêts financiers qui définissent la manière dont on va rédiger des lois? La question des pesticides aujourd'hui pourrait être posée de la même façon. Comment est-ce qu'on peut, pour des raisons financières, pour des raisons de coûts d'aide apportées aux agriculteurs, pour des raisons de difficulté de mise en place des techniques de production différentes, comment est-ce qu'on peut justifier que la loi permette aux producteurs de continuer d'empoisonner des populations sciemment, de manière à faire des économies, alors que tant d'investissements parfaitement inutiles, tant de gabegies sont constatables dans d'autres domaines. Je ne peux qu'être évidemment scandalisé par ça, et le plus dur, c'est de continuer de se battre quand on est confronté à ce spectacle du laxisme et de... plus que du laxisme, de ce spectacle de la malveillance étatique.
Qui c'est qui m'électrise? C'est la bêtise. Qui c'est qui fait water? C'est mon compteur. Qui c'est qui veut le changer? Électricien, qui est plein de vis, c'est Enedis. Qui c'est qui me facture? C'est le percepteur. Qui c'est qui me fracture? C'est le voleur. Qui c'est qui me fait le coffret? C'est ces bandits. Le jour où je suis parti sournoisement, ils mettent le Linky. Ah mais non, je veux pas du Linky. Je veux pas du Linky, à jamais de la vie. Ceux qui veulent l'imposer ne nous ont pas tout dit. Je vais résister à cette infamie. Qui ment dans les médias? C'est une mafia. Et cette Librius, c'est le Lassus. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Ce vilain Bernard, c'est que le Linky, c'est pour la vie. Qui balance par le balcon, pousse au pognon, nous disant que c'est gratis. C'est Enedis qui devra rembourser. C'est pas le banquier, mais nous les bons pigeons avec notre propre pognon. Ah mais non, je veux pas du Linky. Que pas du Linky, à jamais de la vie. Ceux qui veulent l'imposer ne nous ont pas tout dit. Je vais résister à cette infamie qui nous inonde d'ondes à chaque seconde. C'est ce joli compteur perturbateur. Qui c'est qui fout le feu à nos maisons? C'est encore lui, ce truc à la con. C'est lui qui nous espionne comme un sournois. Mais ça, mes braves gens, on vous le dit pas. Qui surveille ma prostate? C'est le milliwatt qui va compter la nuit combien de fois je fais pipi. Ah mais non, je veux pas du Linky.
L'État nous empoisonne sciemment, ou nous laisse nous faire empoisonner, nous laisse devenir malades. Quand je reviens au Linky, quand Enedis dit « mais nous avons pris toutes les précautions, nous avons fait toutes les mesures », il a fallu qu'une association de personnes handicapées saisisse le ministère pour que le ministère saisisse l'Agence nationale de sécurité sanitaire, oui, pour que des études soient faites, alors que le déploiement du Linky était déjà commencé. C'est-à-dire on a commencé à déployer avant de se poser la question sanitaire. Il y a des rapports de RDF que j'ai pu me procurer où on alertait sur d'autres questions, la question de la proximité des habitations par rapport aux lignes à haute tension, etc. Ils sont conscients de la chose, mais eux, ils sont dans une logique d'entreprise. On peut comprendre une logique d'entreprise, mais on ne peut pas comprendre que l'État ne nous protège pas par rapport aux effets d'une logique d'entreprise. On a un rapport de la Cour des comptes qui épingle le business d'Enedis, puisque en définitive, Enedis, pour financer les 5 milliards 700 millions d'euros que coûte l'opération, autofinance à hauteur de 10% et emprunte 90% auprès de banques à un taux de 0,77%. Et ensuite, à partir de 2020, une fois que les compteurs sont à peu près tous installés, ils vont répercuter par l'intermédiaire du TURP, qui est une des taxes qui représente un peu plus de 30% de notre facture d'électricité, ils vont répercuter le coût de l'emprunt, mais pas en se fondant sur ce taux de 0,77%, mais en se fondant sur un taux de plus de 4%. Ce qui fait qu'ils vont faire plus de 3,6% de bénéfices sur le dos du consommateur, sur le dos de l'usager. Alors, dans le genre d'embrouille également, la Cour des comptes épingle bien, mais aussi la Commission des affaires économiques et sociales de l'Assemblée nationale, à peu près à la même période, épingle bien le fait qu'il n'y a pas du tout d'avantage financier réel pour l'usager, parce que pour pouvoir suivre sa consommation au plus près et être économe, on nous dit « le compteur Linky vous permet de relever votre consommation tous les jours, de la suivre sur Internet, etc. » Alors, c'est oublier qu'il y a une bonne partie de la population qui n'a pas accès à Internet. C'est oublier également qu'on ne passe pas notre temps derrière un ordinateur. Et c'est oublier que pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qui nous permettraient d'être prévoyants, d'être économes, il faudrait, d'une part, il faudrait disposer des informations adaptées. Or, les conditions de stockage de l'information permettant d'appréhender sa courbe de consommation sur une année ne sont pas techniquement réalisées par les compteurs actuels. Et d'autre part, pour pouvoir contrôler tout cela, il faut ouvrir un compte sur Internet. Or, très peu de gens ouvrent un compte. C'est de l'ordre de 1 ou 2%. Et en plus de ça, les gens qui ouvrent un compte donnent à Enedis une autorisation de transmettre des informations personnelles les concernant qu'à hauteur de, là encore, 1 ou 2%. C'est-à-dire qu'on a un taux dérisoire de gens qui vont permettre à Enedis de faire de l'argent en revendant, quoi qu'ils en disent, les organismes de publicité pour faire de la publicité, etc., les données sur la manière dont nous consommons, de manière à ce qu'ensuite ces sociétés de publicité, par exemple, puissent nous envoyer évidemment des mails nous disant « Vous savez, il y a un sèche-linge qui est avec une promotion à 30% jusqu'au temps, etc. » Parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça qui s'est mis en place aux États-Unis et dans d'autres pays, et c'est ça qui se met en place aussi en France. Et c'est pour ça que le directeur d'Enedis, M. Monloubou, se vantait à BFM TV, entre autres, d'être devenu un opérateur big data, c'est-à-dire de compter parmi ceux qui disposent d'une masse d'informations colossales et qui vont permettre de sélectionner, de cibler, dans le cadre d'opérations publicitaires, de cibler les personnes en fonction de ce que l'on sait d'eux. Voilà.
Et donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la législation, pour qu'Enedis puisse revendre ses informations, il faut quelque part que vous lui en donniez l'autorisation.
Alors, ça fait partie des grandes arnaques de l'État, des organismes officiels comme la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Toujours jour, en lisant attentivement le rapport de la Cour des comptes, on voit le responsable d'Enedis nous dire d'une part que tout ça est bien protégé, que la CNIL veille. Et puis, on s'est rendu compte le 5 mars 2019 qu'il y a un jugement rendu par la CNIL qui épinglait en l'occurrence Direct Energy, parce que Direct Energy téléphonait aux particuliers en leur disant, sans savoir si c'était des propriétaires, des locataires, « Ben écoutez, voilà, il va falloir changer les compteurs, etc. Mais, et pour pouvoir bénéficier des tarifications avantageuses, il faut que vous acceptiez le changement de compteur. Bon, il vous suffit par téléphone de dire oui ou non. » Les gens, ils disaient oui. Propriétaires non occupants, hein, avec des locataires en place, c'est-à-dire non usagers, ils disaient oui. Et à partir de là, on venait changer le compteur. Or, on ne peut pas, en tant que propriétaire, décider à la place de l'usager. La CNIL a épinglé Direct Energy parce que Direct Energy a obtenu des centaines de milliers d'informations sur des usagers. Obtenues de qui ? Ben d'Enedis. Parce que Enedis est une société prudente. Enedis dégage sa responsabilité. C'est à celui qu'il demande de pouvoir fournir la preuve qu'il y a un consentement de l'usager au transfert des données personnelles. Et dès l'instant où Enedis ne le demande pas, eh bien, la société comme Direct Energy qui demande le transfert de ses données personnelles pour s'en servir, eh bien, prend la responsabilité. Alors évidemment, la sanction est monstrueuse. Oh mon Dieu, Direct Energy a été condamné à se mettre aux normes dans les 3 mois. Et exceptionnellement, on a publié le jugement parce que la CNIL a considéré que c'était grave. Ah bah oui, on aurait pu aussi ne pas en avoir connaissance. Comment voulez-vous faire confiance à un système juridique de ce type ? Je ne peux pas. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un autre monde puisse exister. Donc je ne me résous pas à constater cela. J'ai une formation juridique qui fait que je sais bien qu'en tant que maire, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on a des valeurs morales particulières. Et donc j'ai commencé à prendre des arrêtés en laissant tomber le volet sanitaire. Tant que la maladie ne sera pas reconnue, je ne peux pas prendre en compte le volet santé parce que je me ferais casser, ça n'est pas de ma compétence. Je ne peux pas me battre davantage sur le volet propriété. Je ne peux pas me battre sur le volet social et sur le chômage induit par cette gabegie. Il me restait un volet, c'est le volet sécurité. Tous les départements ont un règlement sanitaire départemental. Tous ces règlements sanitaires départementaux ont un article 5, ou quasiment, ont un article 51 qui réfère à une norme bien particulière, une norme électrique, qui est la norme NFC 1400. Cette norme dit que lorsqu'on pose un compteur, il doit être posé sur un support inflammable. Or, tous les anciens compteurs, quasiment, sont posés sur des supports en bois. J'ai vu là une faille et j'ai tout à fait raison de me poser cette question-là parce que le maire est chargé de la sécurité des biens et des personnes sur sa commune. J'ai pris un arrêté en disant, mais lorsqu'on change les compteurs, partout en France, des millions de compteurs sont posés sur des supports en bois et on ne change jamais ce support en bois parce que le temps d'intervention ne serait plus de 15 à 30 minutes pour changer les compteurs et le coût matériel ne serait plus le même non plus et ça serait un surcoût considérable pour Enedis. Et j'ai dit, je ne peux pas accepter que la vie de mes concitoyens soit mise en danger parce qu'on met un compteur Linky sur un support en bois. Alors on aurait pu me dire, oui, mais les anciens compteurs aussi sont sur des supports en bois. Oui, mais avec le compteur Linky, il y a énormément de gens qui sont obligés d'augmenter la puissance souscrite, de passer de 6 à 9 kW, de 9 à 12 kVA, ou de 12 à 18, etc. Parce que on a, en fait, avec nos disjoncteurs qui sont dans la maison, quand on a souscrit un contrat à 6 kVA, par exemple, on a une tolérance qui fait que si les appareils qu'on branche dépassent un peu les 6 kVA, ça ne disjoncte pas. Avec ce qu'on appelle le breaker, c'est-à-dire un disjoncteur qui est intégré dans le compteur Linky, dès qu'on atteint la puissance souscrite par contrat, ça disjoncte. Alors, du coup, la réponse d'Enedis, c'est « Ah ben monsieur, il va falloir passer à 9 kVA ». Mais quand on change la puissance, on devrait contrôler la section des câbles, par exemple. On devrait contrôler la capacité des appareils, de l'appareillage électrique, des circuits électriques, à supporter cette augmentation de puissance. Or, ce contrôle n'est jamais fait. Quand on change de compteur, on se retrouve dans la même situation où la compatibilité entre l'installation existante et la puissance délivrée devrait pouvoir être contrôlée. Tout le monde s'en lave les mains. Et là, on a une cause de possible de départ de feu, qui va évidemment se propager d'autant mieux que le support de compteur est en bois. D'accord. D'où la prescription qu'on trouve même dans les plaquettes d'Enedis ou les normes Sekelec, on appelle ça, d'où la nécessité de poser des supports non inflammables. Donc j'ai demandé à ce que le déploiement des compteurs Linky sur la commune en remplacement des anciens compteurs soit retardé d'un an. La préfecture, évidemment, monte au créneau, un bon petit soldat de l'État. Donc, j'ai retiré mon arrêté et j'ai repris un autre arrêté, ne suspendant pas, mais disant, il va falloir vous conformer au règlement sanitaire départemental. J'ai pris cet arrêté, évidemment. Ça n'est qu'un rappel à la loi et je me contente de dire que le Code de la Santé rappelle que c'est le maire qui est chargé de veiller à l'application, au respect du règlement sanitaire départemental, qui est un arrêté préfectoral.